Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Alors nous allons commencer notre enseignement, que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous te confions, ô Dieu de gloire, cet enseignement, cette formation. Nous ne voulons pas parler par habitude, mais nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous parler et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, ô Dieu, que tu es parmi nous. Nous croyons en ta grâce, en ta faveur, ta bienveillance et ta miséricorde. Agis, ô Dieu de gloire, et glorifie ton saint nom parmi nous. Saint-Esprit, manifeste-toi et glorifie le nom de notre Seigneur Jésus. Sanctifie ma bouche, afin que tout ce qui sortira de ma bouche rende gloire à ton nom, ô Dieu. Je détruis les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi avait préparé contre cet enseignement, contre cette formation, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Mais nous croyons que tu es ici, parmi nous, ô Dieu, pour ta gloire. Nous avons prié, grand Dieu, au nom de Jésus. Nous disons amen.
Amen.
Gloire à Jésus. Voilà, nous allons commencer notre formation. Aujourd'hui, nous allons voir un point très, très important. Nous allons traiter beaucoup de points pendant cette formation. Mais ici, nous allons commencer par un point que je trouve très, très important pour chacun de nous. Parce que ça va nous permettre de savoir de quoi est composée la Bible et de nous faciliter, ça va nous faciliter la tâche de savoir situer tous les livres de la Bible. Donc c'est un bon départ et c'est un point très très important. Alors notre sujet d'aujourd'hui, je l'intitule les cinq époques chronologiques de la Bible. Les cinq époques chronologiques de la Bible. Vous pouvez noter les cinq époques chronologiques de la Bible. Vous savez, notre Dieu est très bien organisé. C'est à lui qu'appartient l'organisation. Et la Bible dit qu'il est un Dieu d'ordre. Il est le Créateur. Il a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous touchons et tout ce que nous entendons. C'est Dieu le Créateur. Alors, quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit, il a créé les cieux et la terre. Il a séparé les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Parce que je vais vous dire que il y a des eaux qui existent au-dessus de l'étendue. Et l'étendue, c'est le ciel, c'est le premier ciel. Hein? Le premier ciel, c'est que nous voyons là où nous voyons les étoiles. C'est ça l'étendue. La Bible dit Dieu a séparé les eaux qui sont au-dessus. C'est-à-dire, il existe les eaux au-dessus de l'étendue. Ces eaux qu'on ne peut pas voir, ça existe là, au-dessus de l'étendue. Mais ici en dessous aussi, ici sur terre, en bas, il existe les eaux aussi. Mais quand Dieu a commencé à créer, il a séparé les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, au-dessus du premier ciel, d'avec les eaux qui sont restées ici en bas. Alors, il a séparé, il a formé la terre qu'il a appelée, ce que nous appelons le continent, et il sépara ce que nous appelons le continent d'avec les eaux. Donc, il a rassemblé les eaux d'une part et d'autre part, c'est la terre, ce que nous appelons le continent. Donc, Dieu est très bien organisé. Et quand il a commencé à créer, il ne faisait que parler. Il dit, par exemple, que la terre produise la verdure. Et tout de suite, la terre a commencé à produire la verdure. C'est ce jour-là que les légumes ont vu le jour. Les épinards et tout ce que nous connaissons. Les petits pois, les haricots. C'est ce jour-là que les petits pois ont vu le jour. Et c'est le même jour que le manguier a vu le jour. Les cocotiers, les papayers, je ne sais pas moi, les maracuja, c'est ce jour-là. Alors, je vais vous donner un devoir de me chercher, c'était quel jour? Est-ce que c'était le premier jour?
Non.
Le deuxième?
Non.
Le troisième? C'était le quantième jour. Ça, c'est le
troisième jour.
C'était quand?
Le troisième jour.
Vous êtes sûr?
On l'a écouté 10 000 fois.
Pardon?
Ouais. On l'a écouté plusieurs fois.
Mais c'était quand? C'était le quantième jour?
Le quatrième jour.
Est-ce que vous pouvez le prouver dans la Bible?
Oui.
C'est dans quel verset?
C'est dans Genèse.
Oui.
Premier.
Ouais.
Le chapitre.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est le quatrième jour?
Non, on est là.
Est-ce que vous êtes sûr?
Ça doit être le...
Alors, commencez à lire Genèse chapitre 1 à partir du 9e verset. Allez jusqu'au verset 13.
Oui.
Vous pouvez lire?
Oui.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant un nœud, leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. C'est ça le doute, hein?
C'était quand?
Le troisième jour.
Amen, que Dieu soit loué. Donc, je vais dire que les petits pois, les légumes et les haricots vivent le troisième jour.
Le troisième jour.
C'est sûr?
Oui. Sûr.
Maintenant, on est sûr que c'est le troisième jour.
Oui, on l'a lu.
Ok, alors quand je vais vous dire, aujourd'hui, je vais manger ce que Dieu a créé le troisième jour. Donc, commencez déjà à vous poser la question, est-ce que c'est les haricots, les petits pois ou les... Comment vous appelez encore? Bitekuteku.
Bitekuteku.
Ok, on continue. Ça, c'était une parenthèse. Alors, comme devoir, je vais vous donner, il faut savoir, les poissons ont été créés le 40e jour. L'homme a été créé le 40e jour, c'est important. Donc, méditez bien Genèse chapitre 1 et la prochaine séance, vous allez me dire, l'homme a été créé quand? Quand est-ce que les poissons ont commencé à exister? Donc ça, c'est très, très important. Et la Bible nous dit encore que Dieu a créé les armées, hein, l'armée des cieux et l'armée de la terre.
Oui.
Dieu, il est bien organisé. Je vais vous demander de méditer le chapitre premier, hein, tous les chapitres premiers de Genèse. Et vous pouvez aussi méditer tous les chapitres 2. Donc ça, c'est le devoir, c'est un devoir que je vous donne pour notre séance prochaine. Que chacun de vous écrive dans son cahier tout ce qu'il comprend de ces deux chapitres. Mais j'aimerais que vous puissiez préciser qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a créé le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième jour et le septième jour, c'était quoi? Donc ça, c'est un devoir, c'est très important pour que vous puissiez les connaître. Voilà, je referme tout de suite cette parenthèse. Je poursuis pour dire que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre, il est merveilleux. C'est un Dieu d'ordre. Et voilà, je dis que aujourd'hui nous voyons les cinq époques chronologiques de la Bible. Alors tout de suite, nous allons commencer avec la première époque. Nous commençons avec la première époque. Et la première époque, c'est l'Ancien Testament. Nous commençons par la première époque qui est l'Ancien Testament. La première époque, nous allons noter, la première époque, c'est l'Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. Donc c'est ça la première époque. La première époque de la Bible, c'est l'Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme et la femme. Le péché est entré dans le monde par la ruse du diable à travers les serpents. La femme séduite, elle a mangé les fruits. La Bible dit, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc Adam n'était pas loin, il était auprès de sa femme. Et voilà, Adam qui n'a pas refusé ses fruits. Parce que vous savez, la femme avait vu que les fruits étaient agréables à la vue. Les fruits étaient bons à manger et agréables à la vue. C'est ce qui l'a poussé à manger les fruits. Et la Bible dit, elle en donna aussi à son mari, Adam, qui était auprès d'elle. Et Adam aussi a mangé, il n'a même pas refusé. Mais j'ouvre encore une parenthèse. Aujourd'hui, les hommes disent, si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de la femme. Mais la Bible dit, Adam était auprès de sa femme. Mais pourquoi il n'a pas refusé?
Oui.
Il fallait qu'il refuse. Pourquoi il n'a pas refusé? Ah, voilà, ça c'est encore un problème. Vous pouvez lire Genèse chapitre 3, verset 6.
Okay.
femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était où? Dans la cuisine? Il était au travail?
Non, il était à côté d'elle.
Il était en voyage?
Non, à côté d'elle.
Est-ce que Monsieur Adam était parti aux États-Unis?
Non, non.
Il était où?
À côté d'elle.
La Bible dit, il était auprès d'elle. Mais il n'a pas refusé ce monsieur. Il a mangé. C'est que lui aussi, il regardait avec envie ses fruits depuis longtemps. Mais il a sauté sur l'occasion. Et voilà aujourd'hui, les hommes disent, si nous souffrons, c'est à cause de la femme. Parce que la femme avait mangé les fruits. Adam aussi avait mangé les fruits parce qu'il n'avait pas refusé.
Bien sûr.
Il fallait qu'il refuse au moins, comme ça, le problème aurait été seulement pour les femmes. Ouais. Mais Adam aussi avait mangé. Mais écoutez, la Bible dit, c'est par la femme que le péché est entré dans le monde, c'est aussi par elle que le salut est entré. C'est par la femme Ève que le péché est entré dans le monde, mais c'est aussi par elle, c'est-à-dire c'est aussi par la femme Marie, la mère de Jésus, que le salut est entré. Voilà, Dieu a justifié les femmes maintenant. Donc, les hommes ne peuvent plus condamner les femmes parce que l'erreur commise par Ève, Dieu l'a réparée à travers Marie, à travers Jésus-Christ. Et voilà, les femmes sont lavées. Elles sont justifiées par le sang de Jésus. Et les hommes aussi sont justifiés par le sang de Jésus. Alors, je disais, la première époque, c'est l'Ancien Testament. La première époque, c'est l'Ancien Testament ou la préparation de la venue de Jésus-Christ. C'est ça, la première époque. Alors, la première époque commence à partir du livre de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. C'est ça, la première époque. La première époque part du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Ça c'est la première époque de la Bible. Ça commence par le livre de Genèse et ça se termine au livre de Malachie. La première époque de la Bible. Alors, je disais que l'Ancien Testament, c'est la préparation de la venue de Jésus-Christ. Donc, quand l'homme a péché, Dieu a commencé à chercher par tous les moyens pour sauver l'homme. Parce que l'homme et la femme, quand ils ont mangé les fruits, c'est-à-dire quand ils ont péché, ils sont devenus nus, sans protection. Maintenant, lorsqu'ils se sont retrouvés nus, la Bible dit, ils sont allés se cacher dans les champs. Quand Dieu est venu le soir, il s'est promené dans le jardin. Il a commencé à chercher l'homme. Mais l'homme n'était pas là-haut. Dieu qui demande à Adam, « Adam, où es-tu ?» Ça, c'est déjà au chapitre 3, à partir du verset 9. Dieu dit à Adam, il appela l'homme. Et il dit, « Où es-tu ?» Adam qui répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oh! Dieu se rend compte que Adam est conscient qu'il est nu. Mais comment est-ce que tu es devenu nu? Comment est-ce que tu es devenu nu? Vous savez, lorsque le péché entre dans la vie d'une personne, le péché te dépouille de ton autorité. Le péché te détruit. Te détruit, bien-aimé. Le péché te détruit. Ça te dépouille de ton pouvoir. La Bible dit, le diable n'a que trois verbes. Le diable, il est là pour voler, égorger et détruire. Et à travers le péché, il te vole ta paix, il te vole ton autorité, il te vole ton pouvoir. Même l'assurance, tant tu es déjà dans le péché, tu n'as même plus d'assurance. Et vous savez, rouler dans une voiture qui n'a pas d'assurance, ah, c'est très dangereux, hein? Le policier, lorsqu'il t'arrête, si tu avais au moins l'assurance, c'est encore mieux. Tu peux avoir le permis de conduire, mais sans assurance, le policier t'arrête tout de suite. Parce que ta voiture n'est pas assurée. Et nous, les enfants de Dieu aussi, quand tu pèches, bien-aimé dans le Seigneur, tu perds la protection. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, ils se sont retrouvés nus, sans pouvoir, sans puissance, sans protection. Ils se sont retrouvés nus, Adam et Ève. Et la Bible dit encore, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez, le péché te prive de la gloire de Dieu. Le péché t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Le péché empêche la gloire de Dieu d'éclater dans ta vie. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché vient rompre la communion que tu avais avec Dieu. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont mangé les fruits, ils ont désobéi à Dieu, ils se sont retrouvés nus. Et conscient du fait qu'ils étaient nus, la Bible dit, Adam qui répond à Dieu dans Genèse chapitre 3 au verset 11, 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça c'est grave. Donc il a eu peur. Le péché bien-aimé dans le Seigneur te pousse à avoir peur. Tu vas commencer à avoir peur des gens. Tu vas commencer à avoir peur des serviteurs de Dieu. Lorsque tu vois un enfant de Dieu qui passe, ah, il va encore me parler de Dieu. Tu fuis. Tu changes de direction. Tu commences à avoir peur. Le péché bien-aimé te diminue devant les diables. Ça te diminue devant les démons. Ça te diminue devant les sorciers. Tu vas commencer à avoir peur des sorciers. Ah, celui-là, c'est un sorcier. Tu vas vite te cacher. Le péché t'aveugle. Tu deviens aveugle. Tu ne sais même pas que c'est toi qui as le pouvoir et l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Ça te fait perdre ta force. Ça te diminue. Adam et Ève sont allés se cacher, mais ils sont allés se cacher nus dans la désobéissance, dans les péchés. Et Dieu qui est bon, Dieu a commencé maintenant à chercher les moyens pour récupérer l'homme, l'homme qui était déjà dans les péchés. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il fallait que l'homme vive longtemps, qu'il puisse dominer, qu'il soit fécond, qu'il soit prospère, qu'il soit puissant. C'est ça. Dieu voulait de l'homme un homme vraiment qui réussit dans tout ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, si certaines situations sont difficiles dans la vie de beaucoup de gens, c'est à cause du péché. Vous savez, lorsque tu pèches, tu signes ton propre acte de vente. Est-ce que vous savez ça? Le péché seulement, lorsque tu commets le péché, tu signes l'acte de vente. C'est-à-dire, tu te vends toi-même. Tu te vends lorsque tu pèches. Le péché, c'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Rien qu'en péchant, tu signes l'acte de vente. C'est-à-dire, tu te vends. Et le diable t'achète. Le démon t'achète. Il te récupère. Quand il t'achète, bien-aimé, vous savez, lorsque vous achetez le pain n'a rien à dire contre vous. Parce que vous achetez le pain pour le manger. Est-ce que avez-vous déjà vu un pain, vous venez de l'acheter dans un supermarché ou je ne sais pas moi, dans une boutique. Tu rentres avec le pain, ton pain que tu viens d'acheter avec ton propre argent. Tu prépares le pain, tu mets je ne sais pas moi, la charcuterie, la margarine ou le beurre. Et lorsque tu soulèves le pain pour seulement manger, le pain qui dit « Non, je ne veux pas, ne me mange pas. » Tu n'as pas le droit de me manger. Qui a déjà vu le pain réclamé, refuser qu'il soit mangé? Il ne peut même pas refuser parce que le pain lui-même est conscient que tu viens de l'acheter pour le manger. Alors, lorsqu'on pêche, on est vendu au diable. Il t'achète. Tu te vends, tu signes l'acte de vente. Ça, c'est grave, hein? C'est très dangereux. Alors, nous allons voir dans la Bible comment est-ce que l'homme se vend lorsqu'il pêche. Nous voyons Ésaïe 52, verset 3. Ésaïe chapitre 52, verset 3. Si quelqu'un trouve les textes, il peut lire. Ésaïe 52, verset 3. Ésaïe 52, 3.
Ésaïe 52, 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté.
Voilà, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Donc, lorsqu'on pêche, on est vendu gratuitement. Et le diable t'achète. Le démon t'achète. La maladie t'achète. La pauvreté t'achète. La malédiction t'achète. Et maintenant, ça va commencer à récupérer ta vie. Comme toi, tu fais avec le pain lorsque tu achètes le pain. Maintenant, la malédiction va encore agir de la même façon contre toi. Parce qu'il vient de t'acheter. Il y a beaucoup de gens qui sont vendus à la malédiction. Il y a beaucoup de gens qui sont vendus à la maladie, vendus au péché, vendus aux humiliations, vendus à la pauvreté, vendus au chômage, vendus au célibat. Parce que quand tu pêches, maintenant tu as beaucoup de gens qui se présentent pour t'acheter. C'est comme si tu avais lancé une annonce de vente. Maintenant, beaucoup de clients se présentent pour acheter. Soit c'est la pauvreté qui t'achète, soit c'est la maladie qui t'achète, soit c'est la malédiction qui t'achète. Et maintenant, tu vas être soumis à l'esprit qui t'a acheté. Beaucoup de gens sont vendus et achetés par l'esprit de l'impudicité. Voilà pourquoi, quand il se met lui-même, consciemment, il dit qu'aujourd'hui, je dis non à l'impudicité. Ce que j'ai fait, c'est mauvais. Il prend la décision pour abandonner l'impudicité. Mais tellement qu'il est vendu et que l'impudicité l'a acheté, c'est l'impudicité maintenant qui va commencer à dominer sur lui. Parce qu'il n'est plus maître de lui-même. C'est l'impudicité qui est son maître. Et c'est plus fort que lui-même. Pourquoi? Simplement parce qu'il est vendu et il dépend maintenant de l'esprit qu'il a acheté. Donc, lorsqu'on pêche, on devient prisonnier d'un ou plusieurs esprits impurs. Voilà, maintenant quand l'homme a péché, dans la première époque, Dieu a commencé à chercher les voies et moyens pour récupérer l'homme, l'Ancien Testament. Et Dieu a commencé à envoyer les prophètes. Il a envoyé ses serviteurs, toujours dans le cadre de la recherche du salut de l'homme. Et les prophètes sont venus, les Abraham sont passés, les Moïse, les Samuel, les prophètes Samuel, Élie, les sacrificateurs, Élie, les prophètes. Tous ces gens-là, ils ont commencé à travailler de la part de Dieu pour récupérer l'homme, pour le salut de l'homme, pour la délivrance de l'homme. Ils ont commencé à travailler. Donc Dieu a fait un grand travail à travers l'Ancien Testament pour le salut de l'homme. Alors maintenant, on utilisait le sang pour le pardon des péchés. Mais seulement le sang des animaux qui coulait ne faisait que couvrir les péchés. Alors il fallait un sang qui pouvait ôter les péchés. Mais pour arriver à un sang qui pouvait ôter les péchés, il fallait bien préparer cela. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé à préparer. Les gens comme Moïse, déjà à son époque, Moïse a commencé à parler de la venue de Jésus-Christ. Nous allons lire Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15.
Deutéronome 18, 15. Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez.
Oui, allez-y, vous pouvez aller même jusqu'au verset 18.
Il répondra ainsi à la demande que tu fuis à l'Éternel ton Dieu et à Horeb. Les jours de l'assemblée, et quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai des milliers de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai.
Voilà. Donc, Dieu dit, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ici, Moïse a déjà commencé à prophétiser sur la venue de Jésus-Christ. Parce que vous savez, les enfants d'Israël, c'était des gens, ils étaient comme Thomas dans le Nouveau Testament. Ils ne pouvaient pas accepter quelque chose s'ils ne voyaient pas. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 19, ils ont voulu voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles. Dieu qui dit à Moïse, prépare les peuples, sanctifie-les, et le troisième jour, rendez-vous au mont Sinaï. Et si vous lisez Exode chapitre 19 à partir du verset 10, vous voyez que Moïse a sanctifié le peuple pendant 2 jours, et le troisième jour, ils sont allés sur le lieu de rendez-vous à la montagne. Et la Bible dit, la montagne était remplie de la présence de Dieu au point que, quand quand Dieu a commencé à parler, la Bible dit la montagne tremblait avec violence. Et ce jour-là, le peuple avait eu chaud parce qu'ils ne voulaient pas écouter Moïse. Ils ont dit, comment est-ce que toi tu vas là-bas, tu entends, on sait quoi. Nous voulons nous-mêmes entendre de nos propres oreilles. Bon, il n'y a pas de problème, vous allez écouter. Et ce jour-là, ils ont entendu la voix de l'Éternel. C'était comme des tonnerres. Et la Bible dit, la montagne tremblait avec violence. Exode 19, 19 nous dit, Moïse parlait et l'Éternel lui répondait à haute voix. Moïse parlait et l'Éternel lui répondait à haute voix. Écoutez, Dieu et Moïse, ils se parlaient comme nous on se parle. Non, c'était comme des amis. Ils se parlaient comme ça. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Ce n'est pas comme aujourd'hui, beaucoup de gens. Vous savez, à Kinshasa, j'avais un de mes enfants spirituels qui est aujourd'hui pasteur. À l'époque, quand je l'avais prêché, je l'ai fait accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et j'ai commencé à les former dans leur groupe. J'ai commencé à former cette équipe-là. Un jour, j'étais avec eux, c'était toujours pendant la formation, et je pose la question, à qui est-ce que Dieu s'est manifesté? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Et chacun commençait à dire, moi Dieu m'a dit ça, moi Dieu m'a dit ça. Et le frère, qui est pasteur maintenant, il me dit, papa Moïse, moi je n'ai pas fait un rêve aujourd'hui. Cette nuit je n'ai rien vu. Je n'ai pas eu de songe. Alors je lui dis, est-ce que tu crois que pour que Dieu te parle, il faut que tu dormes seulement pour attendre les songes ou la vision? Pourquoi vous limitez les gens seulement, vous limitez votre Dieu au niveau des songes et des visions? Dieu peut vous parler comme il parlait à Moïse. La Bible dit, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et Dieu qui dit à Moïse, j'enverrai un prophète comme toi. Donc il a promis qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Vous pouvez encore lire Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Maintenant, le Nouveau Testament confirme la prophétie de Moïse. Cette prophétie de la préparation de la venue de Jésus. Actes, chapitre 3, verset 22. Vous allez aussi méditer Actes 7, 37. Actes 3, 22 et Actes 7, 37. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons lire d'abord les versets 22. Si quelqu'un trouve le texte, il peut lire pour la gloire de Dieu. Actes, chapitre 3, verset 22.
Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque dit...
Ma sœur, excusez-moi, vous pouvez même commencer à lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, s'il vous plaît. Okay. Actes 3, 18 à 25.
Mais Dieu accomplit de la sorte avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous ressuscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple.
Reprenez ces versets, s'il vous plaît, les versets 23. Et quiconque
n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance de Dieu, et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. »
Gloire au Seigneur. Je vais reprendre le verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Je lis le verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. Jésus-Christ, c'est de lui qu'on parlait. C'est de lui que Moïse a parlé. C'est de lui que tous les prophètes ont prophétisé depuis Samuel jusqu'à tous les prophètes. Ésaïe même a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ 800 ans avant la naissance de Jésus. Il a parlé. Donc, l'Ancien Testament, c'est la préparation de la venue de Jésus. Ésaïe a prophétisé 800 ans avant. Qui pouvait croire à cette prophétie? Il parlait des choses que les gens ne voyaient pas encore. Et grave encore, déjà à l'époque de Moïse. Moïse qui dit, le Seigneur vous enverra un prophète comme moi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Vous savez, la prophétie de Dieu, même si elle dure, elle finit par s'accomplir. Ce que Dieu dit dans ta vie, même si elle dure, elle finira par s'accomplir. Si le Seigneur te fait une promesse, cette promesse-là finira par s'accomplir. Ce qu'il a dit sur Jésus-Christ s'est accompli. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons les aveugles recouvrir la vie au nom de Jésus. Nous voyons les boiteux marcher au nom de Jésus. Nous voyons les malades être guéris au nom de Jésus. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu a commencé à préparer la venue de Jésus. Le salut bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Donc voilà, tous les prophètes qui se sont succédés l'un à l'autre, ils n'ont fait que parler de cette venue, de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tout à l'heure que Ésaïe même a prophétisé 800 ans avant. 800 ans avant, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, gloire à Jésus. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 9, ça je vais vous donner, c'est un devoir. Vous allez méditer Ésaïe chapitre 9 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Vous voyez cette prophétie qui nous parle des temps messianiques. Vous pouvez même commencer à partir du chapitre 8. Déjà au verset 23 du chapitre 8 d'Ésaïe, Ésaïe parlait de la venue de Jésus. Je vais lire Ésaïe, je lis d'abord Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé en couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain et le territoire des païens. Alors, écoutez le verset 1 du chapitre 9. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Alors, tous ceux qui ont habité dans les ténèbres ou qui continuent à habiter dans les ténèbres, à pratiquer le péché, la sorcellerie, le maraboutage, écoutez, Dieu a envoyé Jésus pour que vous soyez éclairés, pour que vous puissiez quitter les ténèbres, ces œuvres de ténèbres que vous pratiquez, l'impudicité, la polygamie, la sorcellerie et tout ce que vous connaissez. Dieu a envoyé Jésus qui est la lumière pour que vous soyez éclairés. Alors écoutez le verset 5, Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il prophétisait sur la venue de Jésus, le prophète Ésaïe. Donc voilà, l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle aussi la préparation de la venue de Jésus. Dieu a préparé la naissance de Jésus-Christ. Il a préparé la venue de Jésus. Jésus est venu pour sauver, pour nous sauver, pour nous libérer de l'emprise du diable. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Si tu es dans les ténèbres aujourd'hui, peut-être tu es enfant, tu es à fond dans les ténèbres et qu'on te dit, tu ne peux pas dévoiler tous les secrets que tu as vus ici dans les ténèbres de peur que tu ne puisses mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Les secrets des ténèbres que tu détiens, Jésus est capable de détruire même la loi qui te condamne à la mort. Parce qu'il est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer le monde et que le monde soit éclairé par lui, par la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur des ténèbres. Ça, ce ne sont que des intimidations. Ils te disent que si tu dévoiles ce secret, ce même jour-là, tu vas attraper la folie. Jamais, tu n'attraperas pas la folie quand tu donnes ta vie à Jésus. Et Jésus va éclairer ta vie. Il va détruire ces œuvres des ténèbres. C'est lui qui t'a condamné. La préparation de la venue de Jésus, l'Ancien Testament. Alors, dans cet Ancien Testament, bien-aimés dans le Seigneur, je dis que c'est réparti en groupes, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez des groupes. Dans l'Ancien Testament, vous avez des livres, mais ces livres sont regroupés dans différents groupes ou différentes catégories. Et maintenant, nous allons voir les groupes. Donc, dans l'Ancien Testament, vous avez des groupes de livres qui sont répartis selon les époques ou selon Nous voyons le premier groupe des livres de l'Ancien Testament d'abord. Le premier groupe, c'est ce que nous appelons les Pentateuques. Les Pentateuques ou la loi de Moïse. Le premier groupe de livres de l'Ancien Testament. Écoutez, nous voyons cet enseignement pour nous permettre de bien comprendre comment sont répartis les livres de la Bible, et ça nous permet aussi de trouver facilement les livres. Par exemple, on vous dit, lisez la parole de Dieu dans Nahum. Maintenant, tu te poses la question, est-ce que Nahum, ça se trouve dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? Donc, cet enseignement te permet de savoir situer les livres de la Bible. Alors, le premier groupe de livres de l'Ancien Testament, le premier groupe de livres de l'Ancien Testament, je dis, c'est le Pentateuque ou la loi de Moïse. Alors, dans le Pentateuque, nous avons cinq livres. Cinq livres, le Pentateuque ou la loi de Moïse comprend cinq livres. Ça part, ces cinq livres, ce sont même les cinq premiers livres de la Bible. Le Pentateuque ou la loi de Moïse est composé de cinq livres, et ce sont même les cinq premiers livres de la Bible. Alors, je vais vous demander d'écrire dans vos cahiers, vraiment, vous allez regrouper ces livres selon leur groupement. Alors, dans le Pentateuque, nous avons comme premier livre que vous connaissez la Genèse. Donc, il y a cinq livres dans le Pentateuque. Je vais bien vérifier les cahiers aussi. Nous avons la Genèse. Nous avons la Genèse. Premier livre, c'est le livre de Genèse. Deuxième livre, c'est le livre d'Exode. Ça fait partie des Pentateuques ou la loi de Moïse. Exode. Nous avons le troisième livre qui est Lévitique. Quatrième livre, c'est le livre des Nombres. Et enfin, cinquième livre, c'est Deutéronome. Donc voilà, quand je vous dis, le Pentateuque est composé de combien de livres? Il faut répondre tout de suite que le Pentateuque est composé de cinq livres. Et quels sont ces livres? Ma sœur, quels sont ces livres? Pourriez-vous me citer les cinq livres qui font partie des Pentateuques ou la loi de Moïse?
Oui, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome.
Voilà, bravo, que Dieu vous bénisse. Donc c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc ça doit rester là dans la tête. Ça doit être bien mémorisé. Quels sont les cinq livres qui sont regroupés dans le Pentateuque ou la loi de Moïse? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la loi de Moïse? Parce que ce sont les livres que Moïse a écrits. Beaucoup de gens croient que c'est Abraham qui a écrit le livre de la Genèse. Non, ce n'est pas Abraham, c'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà pourquoi on l'appelle la loi de Moïse, le Pentateuque. Ça, c'est le premier groupe de livres de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament que nous avons dit, nous pouvons aussi l'appeler comment? On appelle l'Ancien Testament ou quoi? Là? La préparation de la venue de Jésus-Christ. Oui. Alors, dans cette préparation de la venue de Jésus-Christ ou le Pentateuque, nous avons combien de livres?
Il y a cinq livres.
Lesquels?
Il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome.
Voilà, bravo. Alors maintenant, nous allons passer, vous allez vraiment noter ces livres dans vos cahiers. Nous passons maintenant au deuxième groupe des livres de l'Ancien Testament. Parce que ici, nous sommes en train de voir les cinq époques chronologiques de la Bible. C'est-à-dire, quand on parle des époques chronologiques, ce sont des époques qui se suivent. Des époques qui se suivent. Alors, puisque nous sommes déjà arrivés au cinquième livre de la Bible, je crois que tout de suite nous allons entamer le sixième livre. Et déjà à partir du sixième livre, je commence par poser la question, quel est le sixième livre de la Bible?
C'est Josué.
Ah, voilà. Donc déjà à partir de Josué, nous avons ce qu'on appelle les livres historiques. Ça, c'est le deuxième groupe des livres de l'Ancien Testament ou de la préparation de la venue de Jésus-Christ. Donc, le deuxième groupe, ce sont les livres historiques. Il y en a combien? Alors, dans ce groupe, nous avons Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Ça fait combien au total? 12 livres. Alors, dans cette deuxième époque des livres de l'Ancien Testament, nous avons 12 livres que nous appelons les livres historiques. Ce sont les livres historiques. Dans le premier groupe, c'était les Pentateuques ou la loi de Moïse. C'est là que vous trouvez la loi. La loi, par exemple, sur les refuges, la loi sur les offrandes, la loi sur tout ce que vous... Il y a des lois dans cette première partie. Maintenant, dans le deuxième groupe, on parle des livres historiques. Il y en a 12. Je veux que vous puissiez noter ou copier ces livres chronologiquement dans votre cahier. Donc, il y en a 12, Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Voilà les 12 livres qui forment ce groupe, ce deuxième groupe de livres de l'Ancien Testament qu'on appelle les livres historiques. Pourquoi? On les appelle livres historiques parce que dans ces livres, vous trouvez les histoires. Par exemple, David et Goliath, vous les trouvez dans ce deuxième groupe. Par exemple, l'histoire du roi Josaphat, quand les Ammonites, les Moabites et les habitants de la montagne de Séir sont venus contre le roi Josaphat et tout Juda et Jérusalem, dans 2 Chroniques, chapitre 20. Vous trouvez cette histoire-là dans 2 Chroniques chapitre 20. L'histoire du roi Josaphat qui était envahi par ces trois pays, cette coalition des Ammonites, Moabites et les habitants de la montagne de Séir. Donc c'est ici dans les livres historiques que vous trouvez des histoires telles que la chute de Jéricho. Là où les enfants d'Israël ont marché avec Dieu dans la louange et la muraille de Jéricho était écroulée. Alors, j'interpelle les parents ici. Il est préférable, parents, chers parents, que vous puissiez acheter des DVD de ces films repris dans les livres historiques pour les enfants. Même, c'est bien même pour vous-même, pour que vous puissiez bien comprendre ces histoires. David et Goliath, Esther, David, c'est important. Achetez ces DVD, ces films. Nous ne l'avons pas ici dans la maison Cité de Dieu. Si le Seigneur permet à ce que nous puissions l'avoir, je sais que ça va venir. Mais c'est important que vous puissiez vous en procurer. C'est très très important. Et lisez aussi ces livres. Et vous allez comprendre beaucoup de choses spirituelles qui sont cachées. Lorsqu'on parlait des guerres physiques ici, ça ne faisait que parler de la future combat spirituel. Parce que quand vous voyez David et Goliath se battre, David qui tue Goliath, aujourd'hui, si tu as ton ennemi, tu ne peux pas aller le tuer physiquement. Parce que quand tu le fais, tu es un sorcier. tu es un criminel, Django. Non,
oui.
Il ne faut pas le faire aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de préparer ce qui est spirituel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de David et Goliath, il y a le combat spirituel. Donc, voilà pourquoi lorsque nous prions, Dieu dit dans Luc 10:19, hein, Luc 10:19 nous dit quoi? Qui peut dire? Luc 10:19. Hein?
Oui, oui.
Est-ce que vous... Ça, tu
oui.
peux nous citer ce texte-là, Luc 10:19. Voici.
Oui.
Vous ne le connaissez pas par cœur. Voici.
Si, si, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et sur les scorpions.
Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Voilà. Voici, je vous ai. Ce sont des versets qu'il faut connaître par cœur. Parce que c'est le verset de combat. C'est le verset qui te donne le pouvoir sur les diables, sur les démons, sur la maladie, sur toute œuvre ténébreuse. Jésus qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra... Quand Dieu dit rien, c'est rien. Est-ce qu'il a dit que seulement la sorcellerie, c'est seulement la sorcellerie qui peut vous nuire?
Non.
Est-ce que quand Dieu a dit rien ne pourra vous nuire, il dit c'est seulement la maladie qui peut te nuire et dominer sur toi? Est-ce qu'il a dit c'est seulement la pauvreté ou le célibat qui doit te dominer? Non. Il dit rien. Quand Dieu dit rien, c'est rien. Alors il faut écraser tout au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc voilà le deuxième groupe de livres de l'Ancien Testament ou de la préparation de la venue de Jésus. Ce sont les livres historiques. Il y en a combien? 12. 12 les livres historiques. Alors tout de suite, nous passons au troisième groupe dont nous allons commencer à partir du 50e livre de la Bible. C'est le 50e. Parce que dans le premier groupe, il y avait 5.
18.
Sur
18.
Alors quel est le 18e livre de la Bible?
Pardon?
Quel est le 18e livre de la Bible, là où nous allons commencer?
Job.
C'est Monsieur Job, la coutume de Job. C'est Monsieur Job. Alors, dans cette série ou dans ce troisième groupe, nous avons aussi 5 livres. Nous avons les livres de Job, les livres des psaumes, les livres des proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Et ce groupe-là, on l'appelle les livres poétiques. Les livres poétiques. Il y a combien de livres poétiques? Il y en a
5.
C'est... Allez-y.
Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques.
Voilà. C'est ça les cinq livres qui forment ce troisième groupe de livres de l'Ancien Testament. C'est Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. À la prochaine séance, je vais demander à ce que vous puissiez me citer tous ces groupes avec leurs livres chronologiquement. C'est facile, hein? Alors, il ne faut pas trembler, c'est facile. Alors, ici, il s'agit des livres poétiques. Donc, ce sont des poèmes. Dans ce groupe ici, vous trouvez des poèmes. Vous voyez, Dieu est Dieu. Dieu est tellement bien organisé qu'il a préparé la loi ou le Pentateuch, hein, les 5 premiers livres. Il a aussi préparé les histoires.
Ouais.
Les histoires, comme beaucoup de parents. Ils ont l'habitude de raconter les histoires à leurs enfants avant de dormir. Il va faire dormir l'enfant, il prépare un livre. Mais écoutez, il ne faut pas seulement lire les histoires des ténèbres aux enfants. Parce que quand vous lisez ces histoires de sorciers à l'enfant avant de dormir, mais tu es en train d'initier ton enfant toi-même à la sorcellerie. L'enfant va commencer à voler la nuit, il tue les gens, son âme va être affectée. Et c'est l'âme, vous savez, la sorcellerie se passe au niveau de l'âme. Quand tu as l'habitude de raconter les histoires des sorciers à l'enfant, il a pris son balai, ou il a commencé à voler avec son balai ou avec, je ne sais pas moi, les bananes, tout ça. Bien aimé, tu es en train toi-même d'initier ton enfant à la sorcellerie. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc, la volonté de Dieu est que l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés et que ça soit conservé irréprochable. Mais quand tu es en train de raconter à ton fils ces histoires de ténèbres, ces histoires de sorcières, ces histoires, je ne sais pas moi, quelles histoires ténébreuses, écoutez, tu es en train d'initier ton propre enfant dans la sorcellerie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, lorsqu'il grandit, il a envie maintenant de pratiquer ces choses parce que dès son enfance, son papa ou sa maman en parlait. Son papa l'initiait déjà. Maintenant, il va commencer à trouver ses rêves. Il sort la nuit, il tue les gens parce que la sorcellerie se manifeste sous forme de songes. Vois un enfant qui te dit, ah, aujourd'hui, j'étais à Bujumbura. Ah, on a mangé, on a vu des gens qu'on tuait, on les a préparés au manche. Et tu trouves que c'est normal. C'est anormal. L'enfant est en train de te communiquer un message vrai, qu'il est déjà sorcier. Il était dans la nuit à Bujumbura. Ils ont tué et mangé les gens. Et tu trouves que c'est un songe. Non! Ça, c'est le vrai message spirituel. Donc, parents, ici, en tout cas, je vais interpeller les parents. Commencez à lire la Bible. Lisez la Bible pour vos enfants avant qu'ils dorment. C'est important. Et Dieu lui-même recommande cela dans sa parole. Donc, il ne faut pas lire n'importe quoi à l'enfant. Tu vas là-bas, tu cherches les histoires des vrais sorciers. Toi-même, tu vois même sur ces livres-là, on vous met des images qui vous font même peur. Mais tu préfères acheter cela. Au lieu d'acheter la Bible ou les DVD qui parlent de la Bible aux enfants, vous préférez acheter les histoires qui font peur. Et voilà comment est-ce que vous détruisez la vie de vos enfants vous-même. Et vous détruisez vous-même. Dieu recommande cela dans sa parole. Écoutez ce que Dieu dit. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6. Préparez Deutéronome chapitre 6.
C'est bon?
Ok, commencez à partir du verset 4.
Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants.
Écoutez, Dieu dit quoi?
Tu les inculqueras à tes enfants.
Tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer, c'est quoi par définition? Inculquer.
Enseigner.
Hein?
Enseigner.
Enseigner, c'est-à-dire inculquer, c'est faire en sorte que ce que l'enfant n'a pas l'habitude de faire, qu'il commence à le faire. Ce que l'enfant ne connaissait pas, qu'il le connaisse. Inculquer, c'est imposer une façon de vivre, mais dans le vrai sens. C'est montrer à l'enfant comment il doit marcher. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, inculqué. Je vais vous recommander d'aller chercher la définition de ce mot-là, inculqué. Donc, inculqué, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Mais déjà au verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Donc, il veut que vous sachiez qu'il est le seul. Donc, tu ne peux même pas l'associer avec le démon. Tu ne peux pas l'associer avec des histoires de ténèbres. Tu ne peux pas l'associer aux coutumes des ténèbres. Tu ne peux pas l'associer à n'importe quoi. Il veut que vous sachiez, que nous sachions qu'il est le seul Éternel. Il n'y a pas d'autre. Alors, nous allons continuer. Verset, nous recommençons à partir du sixième verset, s'il vous plaît.
Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
oui.
Quand tu iras en voyage, mmh. Et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Ah, ok, arrêtez-vous un peu là. Le verset 7, Dieu dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Écoutez, ça c'est très important, c'est très profond. Donc Dieu est en train d'insister sur le fait d'inculquer sa parole. Il faut enseigner sa parole aux enfants et à tous ceux qui sont avec toi dans ta maison. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. D'abord à tes enfants. Mais toi, parent, qu'est-ce que tu inculques aux enfants? Dieu recommande que les parents inculquent sa parole aux enfants. Il ne recommande pas d'abord les histoires des sorciers. D'abord, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et il ajoute, il dit, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser. De quoi parles-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu parles quand tu es dans ta maison? Tu parles de quoi? Ah! Il y a beaucoup de gens qui parlent de n'importe quoi. Dieu recommande qu'on puisse même parler de sa parole dans la maison. Ici, il ne recommande pas de conneries. Il ne recommande pas de la médisance. Il recommande sa parole. Beaucoup de gens sont livrés dans la distraction. Qu'est-ce que tu regardes dans ta télé? Sur ton petit écran, qu'est-ce que tu regardes? Alors, il ajoute, il dit encore, quand tu iras en voyage, donc le Seigneur recommande même que quand tu es en voyage, que tu puisses parler de sa parole. Même en voyage. Moi, ça m'étonne beaucoup de gens. Il est chrétien, il voyage, mais il a laissé sa Bible à la maison. Mais tu vas où? C'est comme un conducteur qui se déplace. Il a oublié qu'il existe le code de la route. Alors, il roule n'importe comment. La police va t'arrêter. Tu vas où comme ça? J'avais une fille spirituelle, un enfant spirituel que j'encadrais. Elle a vécu des moments difficiles dans sa vie. Alors, je dis à cette sœur, partout où tu iras, tu dois avoir avec toi ta Bible. Je lui ai donné ce texte, ce passage de Deutéronome 6 à partir du 4e verset. Je dis, tu dois te promener avec ta Bible parce que Dieu dit, même quand tu seras en voyage, tu dois en parler. Donc, tu dois parler de sa parole. Alors, beaucoup de gens, quand ils voyagent, écoutez, il n'est pas interdit de lire d'autres livres de journaux. C'est bien de les lire. Mais tu as beaucoup plus la force ou le temps de lire les journaux et les autres livres. Mais la Bible, quand seulement tu commences à lire la Bible, tu commences à somnoler. Mais pose-toi un peu la question. Pourquoi est-ce que tu commences à lire les journaux du début à la fin sans te fatiguer, mais seulement quand tu commences à lire la Bible, tu somnoles? Parce que le diable sait que c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie, la délivrance, la santé et la victoire. Alors il t'empêche de les lire. Il dit encore, quand tu iras en voyage, et il dit, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Beaucoup de gens, ils dorment sans méditer la parole de Dieu. Mais quand tu dors là sans méditer la parole, tu dors avec qui? C'est grave. Même avant de dormir, bien aimé, méditer la parole de Dieu. Et quand tu te lèves le matin, après avoir prié, médite aussi la parole. C'est important. Écoutez, nous allons poursuivre encore. Verset 8. Ma soeur, pourriez-vous lire le verset 8, s'il vous plaît?
Comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen.
Amen. Ça, c'est très important. Dieu dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains. C'est-à-dire, partout tu vas te rendre, partout tu iras, que ce soit au travail, en voyage, au marché même, fais tout pour avoir avec toi ta Bible. Parce que Dieu dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Donc, il faut que tu aies toujours ta Bible avec toi. Partout tu vas te rendre. Il faut faire en sorte que tu aies ta Bible. Même quand tu vas au travail, prends ta Bible avec toi, mets-la même dans ton sac. Il faut que ceux qui ont des voitures puissent avoir leur Bible dans leur voiture. Moi, quand je me promène, j'ai une Bible dans ma voiture, j'ai beaucoup de Bibles dans ma maison, et partout où je vais, j'ai mes Bibles. Parce que Dieu dit, tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, tes yeux doivent s'habituer à lire la parole de Dieu. Il dit encore, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, même sur le mur de ta maison, il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait des tableaux qui ont des versets bibliques. Même sur ta porte là, étant qu'enfant de Dieu, il faut chercher des autocollants qui ont la parole de Dieu. Mettez-les sur votre porte. C'est écrit dans la Bible. Moi, quand tu entres chez moi, tu as la parole de Dieu partout. Même dans la toilette, il y a toujours la parole de Dieu. Dans toutes les chambres, il y a la parole de Dieu. Au salon, dans la salle à manger, la parole de Dieu. Parce que c'est recommandé par Dieu. Amen.
Amen.
Donc, c'était le troisième groupe des livres, le troisième groupe qui est les livres poétiques. Donc, Dieu a préparé même des poèmes. Alors, nous passons au quatrième groupe. Quatrième groupe des livres de l'Ancien Testament. Ça commence à partir du quantième livre. On en est au quantième.
23.
Pardon?
23.
Ok, 23e, c'est quel livre?
Ésaïe.
Alors, dans ce quatrième groupe de livres de l'Ancien Testament, nous avons les livres prophétiques. Les livres prophétiques, il y en a combien? Il y en a combien? Alors, nous allons citer les livres prophétiques. Il y a d'abord un, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Il y en a combien au total? Vous avez compté avec moi? Est-ce que vous avez compté avec moi? Ça fait combien?
17.
17 livres. C'est sûr? Sûr? Est-ce que vous êtes sûr que c'est 17?
Oui, c'est 17.
Sûr?
C'est sûr.
Ok. Alors, nous avons 17 livres prophétiques. Ça, c'est le quatrième et dernier groupe des livres de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, où on l'appelle encore comment? La
préparation de la venue de Jésus-Christ.
Pardon, ça s'appelle comment?
Le livre pentétique.
Non, le livre de la
préparation
de la venue de Jésus-Christ.
Voilà, la préparation de la venue de Jésus. Voilà, nous venons de voir les quatre groupes des livres de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui est aussi appelé la préparation de la venue de Jésus-Christ. C'est pendant cette époque-là que Dieu était en train de préparer la venue du Messie, la venue du Sauveur, la venue de la lumière du monde, la venue du libérateur. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, sur cette première époque de la Bible. La première époque qui est la préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous demander, si vous avez des questions, préparez-les pour la séance prochaine. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, notez-les, préparez-les pour la séance prochaine. Mais allez, pendant d'ici là, revoyez votre matière, revoyez votre cours, écrivez dans votre cahier tous ces quatre groupes que nous venons de voir chronologiquement, livre après livre, et que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous donner un devoir. Mmh. Oh là 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 là, je vous donne un devoir. Alors, vous allez méditer les livres de Deutéronome, tous les chapitres 18. Deutéronome chapitre 18. Vous méditez d'abord Deutéronome 18, tous les chapitres. Oui. Vous méditez Actes des Apôtres, le chapitre 3, tous les chapitres. Oui. Vous prenez aussi Deutéronome, chapitre 6, tous les chapitres. Donc, je vous ai donné trois chapitres seulement.
Oui.
Seulement.
Oui.
C'est peu, hein? Seulement trois chapitres à méditer.
Ouais.
Ok. Que Dieu vous bénisse.
Merci.
Nous allons prier. Tu es puissant, oh Jésus, tu es. Puissant, tu es puissant, oh Jésus,
tu es puissant.
Seigneur Jésus, nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire. Tu nous as parlé, tu nous as instruit, tu nous as enseigné. Merci, oh mon Dieu, pour cet enseignement, cette formation. Dirige-nous et aide-nous, Seigneur, à connaître ta parole, ô Père éternel. Donne à chacun le discernement, la sagesse et la connaissance, que nous puissions parvenir à la connaissance de ta parole. Ô Dieu de gloire, instruis-nous, enseigne-nous, corrige-nous, dirige-nous, et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Le nom de notre Seigneur Jésus, que ce grand nom puisse être glorifié dans nos vies. Je viens détruire tout ce que l'ennemi a préparé contre tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, soutiens tes enfants partout où ils se trouvent. Que ta paix puisse les habiter et que ta gloire puisse éclater dans leur vie. Bénis, ô mon Dieu, tous les étudiants de cette formation. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons en ton amour, à ta bonté et ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Merci vous aussi.